France Inter en direct du tribunal de Créteil. Matinale spéciale.
En direct de cette salle d'audience avec autour de nous juges, présidents de tribunal, avocats et puis un peu de public dans cette salle d'audience qui a pris place, comme il se doit, évidemment sur les bancs du public. Nous sommes face, je le disais tout à l'heure, à la barre des témoins et puis le standard qui est ouvert à Paris, à France Inter, 01 45 24 7000. Cachou nous appelle de Savoie, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Eh ben, je vous remercie déjà de nous donner la parole. Nous, c'est les cannabinophiles, puisque je fais partie d'une association, le CIRC, qui se bat pour une régulation du marché du cannabis. Je voulais revenir sur la question des stupéfiants, parce qu'elle a été très très peu évoquée dans les affaires de violence policière, parce que c'est quand même à l'origine le prétexte des contrôles quotidiens, du harcèlement des jeunes des quartiers populaires, de la recherche de stupéfiants. Et du coup, vu ce que vous disiez à propos de l'encombrement des tribunaux, et notamment de celui de Créteil, et je voulais savoir si les magistrats réfléchissaient un petit peu à une alternative, à des alternatives sur cette question, que ce soit la dépénalisation, la régulation, la contraventionnalisation, qui me paraît quelque chose d'absurde. Est-ce que ils y réfléchissent? Nous, actuellement, on travaille sur la création d'une plateforme pour des propositions en ce sens, avec notamment des associations d'usagers, avec aussi des associations, des gens qui travaillent dans la réduction des risques. Et on souhaite voir des politiques engagées sur la question au-delà des partis nous rejoindre. Et pour ça, on les invite d'ailleurs à venir à nous joindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, où nous avons des comptes Fédération CIRC. N'hésitez pas. Voilà donc la question.
Merci.
C'est bien de savoir si les magistrats réfléchissent aussi.
Le message est passé. Oui, alors c'est pas les magistrats qui font la loi, vous le savez évidemment, mais ils ont peut-être un avis sur le sujet. Mathieu Bonduel, c'est vous qui évoquiez tout à l'heure l'encombrement et l'afflux de dossiers de stupéfiants. D'abord, est-ce que ça concerne les consommateurs ? Non.
Alors, les dossiers dont je parlais, c'est essentiellement des dossiers de trafic de stupéfiants.
De trafic, on est d'accord.
À tout le moins de détention, transport de stupéfiants, mais pas dans des quantités d'usage. C'est-à-dire pas pour du simple usage.
Au-delà de l'usage personnel.
Pour l'usage, généralement, le parquet utilise des alternatives aux poursuites. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, les affaires dont je parlais, c'est plutôt des affaires de trafic. Mais le fait est que le trafic, notamment de cannabis aujourd'hui en France, c'est quelque chose de considérable, qui mobilise énormément de monde. Parce qu'il y a énormément de consommateurs. Et donc, on passe beaucoup de temps à défaire ces trafics qui se reconstituent parce qu'il y a une forte demande. Et donc, évidemment, ça pose question. Alors, évidemment, moi, je ne dépénalise pas, je ne légalise rien.
Non.
Mon opinion n'intéressera personne. Simplement, je peux simplement dire que ça engloutit énormément de moyens. Je constate que l'Organisation des Nations Unies, des parlementaires se sont interrogés sur ce sujet. Il serait bon qu'on puisse en débattre sereinement, sans tout de suite se voir envoyer à la figure des accusations de laxisme, comme d'ailleurs c'est un grief assez courant en ce qui concerne la justice.
Stéphane Noël, président du tribunal de Créteil, là aussi je vous demande pas si vous êtes pour la dépénalisation, mais est-ce qu'au moins vous admettez que cette question mérite débat compte tenu de ce que vient de dire Mathieu Bonduel, c'est-à-dire des moyens considérables à la fois politiques et judiciaire engagé sur cette question.
Vous l'avez dit, Patrick Cohen, c'est au législateur de poser les règles. Pour autant, lorsque ce débat viendra peut-être devant la représentation nationale, il sera important que députés et sénateurs se penchent sur le coût du traitement actuel de la délinquance en matière de stupéfiants. C'est-à-dire quels sont les moyens qui y sont consacrés et peut-être à ce moment-là de faire une comparaison en coût-efficacité. Il va de soi néanmoins qu'il faut bien avoir conscience que les problèmes de stupéfiants gangrènent nos quartiers, gangrènent notre société. Se voiler la face par rapport à ce que cela engendre comme violence également, en conséquence, ne doit pas être négligé. Et les phénomènes de bande, les phénomènes d'économie souterraine doivent aussi être appréhendés. Et c'est aussi la volonté de tous les parquets de France d'apporter sur ces sujets-là, la meilleure réponse est une réponse diversifiée en distinguant les enjeux de la consommation et les enjeux du trafic.
Au standard d'Inter encore, Anne qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Anne.
Bonjour. Je vous appelle pour vous demander déjà pourquoi est-ce si difficile de faire appliquer cette règle toute simple, quasi judiciaire vierge et inhibilité à vie pour nos hommes politiques. J'habite entre deux villes tristement connues, l'une qui est Meurthe-la-Jolie, où le président du conseil général a été aussi ancien secrétaire des prisons, a des problèmes avec la justice, et de l'autre côté, du côté de Giverny, Limette-Villèze, la famille Balkany, qui possède un moulin, tristement connu, et eux aussi, la famille qui traîne aussi des casseroles depuis des années. Et je pense que ces problèmes de justice qui traînent, bon, hélas, vous n'avez pas les moyens, mais c'est vraiment dommageable pour la vie publique, parce que les gens se désintéressent, mettent tous les hommes politiques dans les mêmes bateaux, et puis ne votent plus, ou s'abstiennent, et voilà, parce qu'on n'arrive pas à régler ce problème qui est quand même pas si compliqué, et ces gens, donc, d'ailleurs, devraient avoir l'amour propre, où on devrait
Donc votre suggestion, c'est quoi, Annie? C'est que la justice, oui, aille plus vite, ensuite, et puis...
Oui, et puis faire passer, enfin moi je pense, bon, c'est pas le problème de la justice, comme on l'a dit tout à l'heure pour le cannabis, c'est pour les députés, mais faire passer cette loi, casier judiciaire vierge, inéligibilité à vie, pour des gens qui traînent depuis 20 ans, 30 ans, des casseroles qui empoisonnent la vie politique. Mmh. Tout à l'heure, vous nommiez tous les programmes de justice des différents candidats. Vous n'avez pas cité Dupont-Aignan, qui propose aussi un beau programme pour la justice. Mais bon, vous ne l'avez pas cité, je ne sais pas si c'est volontaire. Mais voilà, je
non,
le place.
Non, on va, vous l'avez placé. Merci, vous avez réussi à le placer. Merci, Anne, pour cet appel. Bon, là aussi, ce ne sont pas les magistrats et les hommes de justice qui font la loi. Stéphane Noël, les affaires sensibles, comme on dit, ou les affaires signalées qui concernent les hommes politiques, elles sont plutôt centralisées à Paris. Et puis maintenant, aujourd'hui, il y a un parquet spécialisé là-dessus, sur ces questions. Donc vous n'avez pas, vous, de dossier
nous
particulier.
Nous n'avons pas de dossier de ce type à gérer sur le ressort. Ce que je voudrais dire peut-être par rapport à l'auditrice, c'est qu'il est important que les politiques prennent conscience du fonctionnement de la justice. Un parlementaire est surtout souvent attaché au vote des lois. Et peut-être s'intéresse suffisamment au quotidien du fonctionnement des institutions. Nous avons eu l'année dernière une visite, qui était une première, du conjoint du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui sont venus accompagner des journalistes, d'ailleurs France Inter était présent, et qui se sont intéressés au fonctionnement du quotidien, en allant visiter des services, en allant visiter le service des archives, le service des scellés. C'est aussi cela, l'enjeu de la justice. C'est un peu, si vous voulez, cette belle institution, un peu comme une Rolls-Royce avec un moteur de deux chevaux. Et si on veut que ça s'améliore, eh bien, il faut mettre les mains dans le moteur. Et mettre les mains dans le moteur, c'est véritablement s'intéresser, vous l'avez dit, à la ressource. C'est s'intéresser à l'immobilier, mais c'est s'intéresser au fonctionnement du quotidien.
Alors, je me tourne maintenant vers le public et vers Annie Koskas. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour, vous êtes bâtonnière des avocats ici, oui, du Val-de-Marne. Je voulais savoir simplement, est-ce que vous partagiez le constat qu'on dresse depuis 7 heures ce matin sur la grande misère de la justice en général et du palais de justice de Créteil ici, même si nos intervenants ici que vous avez entendus semblent laisser penser que les choses se sont légèrement améliorées au cours de ces derniers mois.
Tout à fait. Effectivement, les choses se sont améliorées. Je l'ai dit d'ailleurs à Monsieur Degnaud lors du reportage.
Jean-Philippe Degnaud, oui, qui a fait le
zoom
tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. On avait aux affaires familiales vraiment un blocage qui était inacceptable. Ma consœur parlait de délai d'un an. C'est vrai, il y a un an, les délais pouvaient être d'un an. Et le président s'est penché sur la question très vite. Et comme je le disais, je me répète un petit peu, mais c'est vrai que c'est important de savoir que nos juges aux affaires familiales, qui ne sont que 9, en réalité, il en faudrait 12 pour que ça soit plus fluide, vu l'ampleur de ce type de dossier. Mais en organisant leurs services et en les déchargeant notamment de permanence au tribunal correctionnel, parce qu'il faut comprendre que Monsieur Bonduel le dira peut-être mieux que moi, et Monsieur Noël aussi, mais les juges ont plusieurs fonctions, c'est-à-dire qu'un juge aux affaires familiales va avoir une permanence au tribunal correctionnel, à la cour d'assises, etc., ce qui l'empêche de travailler que dans son cabinet, ce qui l'empêche de fixer des audiences, plus d'audiences, donc plus de retard, et ce qui l'empêche de rédiger les jugements. Parce que les audiences, c'est bien, mais il faut aussi avoir des jugements. Et quand vous avez des délibérés, des jugements à un mois ou deux mois, je veux dire, c'est aussi tout à fait dramatique pour nos justiciables. Donc j'ai pu constater que, Monsieur le Président, leur avait retiré ces permanences pour que les juges aux affaires familiales demeurent au maximum dans leur cabinet et soient plus disponibles pour les justiciables. Je voulais juste dire un mot, Monsieur Patrick Cohen, sur notre barreau, puisque je représente ici 565 avocats, qui sont là au quotidien auprès des justiciables et qui sont très bien organisés précisément pour ralentir, pour accélérer.
ne ralentissez pas.
Je fais toujours un petit lapsus comme ça, pour accélérer les processus, notamment.
Les processus très ralentis.
Notamment en ce qui concerne les permanences victimes pour les violences faites aux femmes. Il faut savoir qu'ici, il y a un avocat qui est toujours prêt à recevoir une victime et à engager une procédure très vite, enfin sur le champ, on va dire sur le champ, avec des mécanismes qui ont été pris en accord avec l'aide juridictionnelle. C'est la même chose pour ce qui concerne les permanences pénales, puisque nous avons un groupe de défense pénale formé de 215 confrères qui sont vraiment formés et qui sont là tous les jours et qui parfois, effectivement, terminent à 3h du matin les audiences. Donc, ils savent très bien comment ça fonctionne. Et je veux dire qu'ici, il y a une entente entre les chefs de juridiction et le barreau, chacun étant dans son travail, mais chacun essayant vraiment d'avancer et de permettre d'accélérer ces délais qui nous sont imposés par ce manque de moyens.
Merci beaucoup. Annie Koskas, bâtonnière ici dans le Val-de-Marne, des avocats au barreau de Créteil. Mathieu Bonduel, vice-président du tribunal, vous nous avez dit en préparant cette émission que vous déploriez qu'aucun candidat actuel à la présidentielle n'ait de vision de la justice. Et vous disiez, on est mauvais sur la justice des mineurs. Alors, je rebondis sur le débat présidentiel en cours. Est-ce que ça a un sens d'abaisser la majorité pénale à 16 ans ?
Non. D'abord, il faudrait s'entendre sur ce que c'est que la majorité pénale. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge fixé pour la responsabilité pénale d'une personne et en particulier d'un enfant. C'est-à-dire que la loi ne fixe pas d'âge. On dit que c'est à partir du moment où un enfant a du discernement. Simplement, en dessous de 13 ans, on ne pourra pas prononcer à l'égard d'un enfant une sanction pénale proprement dite. On pourra prendre des mesures éducatives, pas de sanction, mais il pourra quand même rencontrer un juge. Donc il aura une forme de responsabilité pénale, dès lors qu'il aura un certain discernement. Et jusqu'à 18 ans, évidemment, qu'un certain nombre de sanctions s'appliquent, et parfois très lourdes.
Donc aller en prison, évidemment. François Fillon, pour ne pas le nommer, qui a fait cette proposition la semaine dernière, a dit « je veux que des gamins, des adolescents qui commettent des faits graves puissent aller en prison ». Ils vont aujourd'hui en prison, ils sont même passible de la perpétuité, en théorie, ça peut arriver.
Dans les affaires les plus graves, en effet. Mais là, il y a une véritable désinformation. C'est-à-dire que c'est la même rengaine qu'on entend depuis très longtemps en disant les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'en 1945, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Tout ça est tout à fait infirmé par les faits. Les sociologues spécialistes de la question le répètent, mais ne sont pas entendus. Les magistrats non plus. Bien sûr que les mineurs sont sanctionnés. Particulièrement quand ils ont entre 16 et 18 ans, hein, sachant qu'on peut déjà aujourd'hui écarter ce qu'on appelle l'excuse de minorité, c'est-à-dire les traiter comme des majeurs entre 16 et 18 ans, si besoin, c'est-à-dire, et si besoin, ben, je dirais c'est notre travail ça de dire si besoin, on individualise, vous voyez, c'est ça notre travail.
La différence, Mathieu Bonduel, c'est qu'ils ne sont pas jugés par les mêmes juges ou les mêmes magistrat.
Ah ben effectivement, il y a un principe de spécialité, c'est-à-dire qu'il y a des juges des enfants qui sont spécialisés en matière de mineurs.
Donc le sens de la proposition de François Fillon, abaisser la majorité pénale à 16 ans, ça revient à faire juger des adolescents de 16 à 18 ans par des tribunaux de droit commun, ceux qui jugent les adultes.
Mais au risque de passer à côté de quelque chose, de rater ce qui va permettre à ce mineur, précisément, eh bien, d'arrêter de commettre des actes de délinquance. Parce que la plupart des mineurs, en réalité, ne font plus parler d'eux ensuite. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée.
Laurence Roch, sur ce sujet, avocate au barreau de Créteil.
Bien sûr, au risque même de se retrouver dans ces fameuses audiences pénales extrêmement violentes, parce que rapides, parce que, comme on venait de le dire, là, pour le coup, c'est des audiences qui se font avec beaucoup de prévenus, où on finit tard et où les peines sont lourdes, et où, évidemment, on ne tient pas compte de la personnalité du délinquant. Or, s'agissant de la justice des mineurs, s'il y en a bien une, qu'on doit défendre parce que finalement elle est de qualité, parce que là elle s'adapte aux prévenus, c'est celle-là. Il faut lui donner les moyens. Et en effet, le juge des enfants très souvent entre 16 et 18 ans prononce des peines lourdes. Mais en revanche, la qualité de cette justice, c'est aussi que c'est une justice préventive, c'est une justice qui prend un peu plus de temps quand elle a les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas. Et évidemment, on sait bien que à 16 ans, on est en devenir. Et justement, j'entendais à propos, puisque vous parliez de François Fillon, du fait que finalement, il a eu lui aussi une adolescence un peu agitée. Il aurait été ravi que...
Il a eu une adolescence agitée,
oui,
pardon ?
Oui, j'avais entendu ça. Wow. Mais sans fait incriminant. Mais ce que je veux dire qui est intéressant,
tout
c'est
est relatif.
On le sait, tout est relatif, mais l'adolescent est en construction. Il est important que le juge pour enfants ait cette double casquette de la prévention et ensuite de la répression.
Merci de nous avoir éclairé. On va marquer une très courte pause avant de retrouver Sophie Aram, ici au tribunal de grande instance de Créteil.